связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкцией Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой.
Vladimir Poutine à la télévision russe, édition spéciale de l'Instant M ce matin. Comment le président russe a pris le contrôle des esprits dans son pays et auprès des populations qu'il entend maintenir sous son influence. Comment les oligarques qui dépendent directement du Kremlin ont petit à petit avalé la quasi-entièreté du paysage médiatique russe. Comment les journalistes qui tentent d'affirmer leur indépendance sont affublés du statut infamant d'agent de l'étranger. Comment l'information est devenue propagande en Russie, excitant la peur, la haine et la paranoïa, préparant le terrain aux opérations militaires voulues par Vladimir Poutine.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Друзья мои, мы сегодня долго будем работать в эфире. Этот разговор очень важен для нас и для вас, и в России, и на Украине. Сейчас новости на Первом канале, и мы вернемся в эту студию. Не переключайтесь.
Voilà, nous étions en direct il y a quelques minutes sur Russia 1, la chaîne publique russe. J'ai trois invités par téléphone qui ont bien voulu se libérer dans l'instant pour nous rejoindre ici sur France Inter. D'abord, Françoise Thom. Bonjour, madame.
Bonjour.
Bonjour Françoise Thom, vous êtes historienne, hein, maître de conférences émérite à la Sorbonne. Vous êtes l'auteur de deux ouvrages, l'un paru en 2018 qui s'intitulait « Comprendre le poutinisme » et l'un plus récent « La marche à rebours ». Avec vous, hein, nous allons voir comment Poutine a armé les esprits afin de procéder à l'opération militaire qu'il concocte depuis des mois. Ensuite, nous serons au téléphone avec Christophe Deloire, le délégué général d'RS. Avec vous, Christophe, bonjour.
Bonjour.
Nous verrons comment le Kremlin fait petit à petit rendre gorge à tous les médias indépendants en Russie. Et puis nous aurons au téléphone Julien Nocetti, qui est chercheur à l'IFRI. Bonjour Julien Nocetti.
Bonjour.
Voilà, et nous jetterons un dernier éclairage avec vous sur la façon dont le régime contrôle les sphères Internet et numériques. Françoise Thom, quand je dis Vladimir Poutine arme les esprits à travers les médias et une forme de lavage de cerveau à travers la presse et la télévision, mes mots dépassent la réalité ou non ?
Non, c'est tout à fait le cas, et depuis des années, on peut dire au moins depuis 2007-2008, les médias russes s'acharnent à semer la haine contre des peuples. D'abord, bon, ça a été auparavant les Tchétchènes, et puis ça a été les Géorgiens, les Baltes, bien entendu. Et puis, surtout, à partir de la Révolution Orange, les Ukrainiens, et à partir de 2014, plus encore. Donc, vous avez une campagne systématique de haine et de peur, mais surtout de haine, qui est attisée par les médias russes quotidiennement. Cette haine s'étend d'ailleurs bien au-delà, puisqu'il s'agit aussi de la haine des Occidentaux, la haine de l'Europe, la haine des États-Unis. On peut dire que les médias russes ont fait une véritable éducation à la haine dans la population russe, et ça a laissé des traces. Poutine a réussi à imprimer sa vision paranoïaque au pays entier grâce à ces médias qui répercutaient ses obsessions et c'est encore une fois ces représentations paranoïaques.
Alors,
assez extraordinaire comme un seul personnage peut modeler l'esprit de tout un peuple. Je ne dis pas que tous les Russes sont tombés là-dedans, bien entendu, il y en a beaucoup qui sont lucides, mais n'empêche que cette propagande est efficace. Hein,
alors, elle se traduit comment ? Elle se traduit comment, Françoise Thom ? Très concrètement, quand on allume la télévision en Russie.
Je vais vous donner des exemples. J'ai regardé un talk show le 16 janvier, le soir du 16 janvier, le talk show de Vladimir Solovyov, qui est un des Goebbels de Poutine. Alors voilà ce qu'on pouvait entendre. J'ai noté certaines phrases. C'était absolument terrifiant. Solovyov, par exemple, qui vous a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de vainqueur dans une guerre nucléaire? Moi, je pense qu'il peut y avoir un gagnant, la Russie. Puis je cite encore un de ses experts qu'il avait invité, Yakov Kedmi. En cas de guerre nucléaire, la Russie subira des dommages, mais les États-Unis seront détruits. Cette terre n'existera plus, tout comme l'Europe. La Russie restera, tandis que pendant 1000 ans, rien ne poussera sur le territoire des États-Unis. Je cite aussi, toujours à la même émission, vous aviez Jirinovski, qui aujourd'hui a le Covid et est hors circuit. Jirinovski, 2021 a été la dernière année paisible pour l'Europe. Les Européens font la fête pour la dernière fois. Champagne, whisky. Une grande tragédie attend l'humanité, l'Europe. Après le début d'un conflit armé en Europe, le nombre de victimes se comptera en millions. On n'aura pas le temps de compter. La décision ne peut être prise que par la force. Et puis il s'adresse à l'un des spécialistes présents. Il dit, spécialiste des États-Unis. Arrête d'aller à New York. Bientôt, cette ville ne sera plus. L'Europe ne sera plus. Il n'y aura plus de Kiev, Varsovie, Londres. Voilà ce qui s'est dit la soirée du.
C'est ça.
Donc c'est. Janvier. Ça vous donne une idée. C'était tous les jours de cet ordre-là.
Et c'était il y a un mois. Et c'était il y a un mois où on menaçait de détruire.
Le 16 janvier.
Mais, c'est ça. De détruire les États-Unis, de répandre la guerre partout en Europe, de détruire les États-Unis, je réponds ce que vous venez de nous dire.
Voilà, détruire les États-Unis. Ils envisagent ça tout très froidement. Ils plaidaient pour des frappes nucléaires, aussi frappes nucléaires préventives aux États-Unis. Mais je vous rappelle que Poutine, en 2018, a fait sa campagne électorale. Là-dessus, sur les armes fantastiques que la Russie avait développées. Et il avait projeté une espèce de vidéo montrant un missile russe se dirigeant vers la Floride. Ouais. Donc c'était déjà en 2018.
Françoise Thom.
On peut dire que la couleur était annoncée depuis longtemps. Et les Occidentaux ont été extrêmement passif devant cette et complaisant devant cette dérive qui se dessinait encore une fois depuis très longtemps.
Alors je vais passer si vous voulez bien la parole à Christophe Deloire, parce que évidemment vous dites un seul homme peut armer les esprits de tout un peuple. Il faut qu'on comprenne comment un seul homme a dans sa main un pouvoir quasi total, pas encore complètement mais quasi total sur la sphère médiatique. Christophe Deloire, je rappelle que vous êtes le délégué général de Reporters sans frontières et vous ne cessez ces dernières années de multiplier les alertes sur la façon d'abord dont de grands oligarques qui dépendent directement du Kremlin avalent l'entièreté du paysage médiatique en Russie. Christophe Deloire.
Des oligarques qui sont parfois des entreprises comme Gazprom qui ont des groupes de médias. En fait, Vladimir Poutine, ce qu'il fait, c'est qu'il coupe son pays du monde et de plus en plus, il le coupe de la réalité. Sa stratégie, au fond, elle est en trois points. Un, il réduit le journalisme digne de ce nom. Il le réduit à la portion congrue. Deux, il utilise le vide pour diffuser, infuser sa propagande avec des médias à sa solde. Et trois, il procède à la déstabilisation des démocraties via les médias à destination de l'étranger. Oui. Alors, en interne, comment fait-il pour réduire comme ça le journalisme ? Il y a une multiplication de moyens, des législations extrêmement répressives avec des lois dans tous les sens extrêmement vagues mais qui permettent de manière arbitraire de persécuter les journalistes, une censure massive sur Internet, des pressions et notamment des pressions financières, y compris vis-à-vis des annonceurs sur la presse indépendante et qui assèchent les financements de la presse indépendante, et puis des nouvelles dispositions, et vous l'avez cité Sonia de Villers en introduction de cette émission, cette loi sur les agents de l'étranger qui a été adoptée en 2014 vis-à-vis des ONG, mais qui a été élargie aux médias en 2019 et vraiment...
Mais Christophe Deloire, il n'y a pas une semaine en Russie sans qu'un journaliste soit accusé d'être un agent de l'étranger.
Oui, on est à 116 médias ou journalistes qui ont été accusés d'être agents d'étrangers, y compris... Enfin, il y a eu l'ONG Mémorial qui a été dissoute récemment. C'est une loi qui est extrêmement répressive et qui est totalement arbitraire. Alors, on peut se dire, a priori, mais sanctionner l'espionnage, c'est légitime. Mais en fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans la situation aujourd'hui où des médias qui, par exemple, ont des abonnés étrangers peuvent être, pour cette raison seulement, accusés d'être agents de l'étranger.
Je voudrais que vous disiez un mot...
Pour avoir fait des interventions sur des médias étrangers, pour avoir touché une subvention de l'Union européenne, ou même pour avoir un responsable de son site internet basé aux Pays-Bas. Voilà, ça suffit pour être qualifié d'agent de l'étranger.
Christophe Deloire, je voudrais que vous disiez un mot sur une pratique digne des pires heures du stalinisme ou du maoïsme, pour parler du voisin chinois, les aveux forcés. Les aveux forcés qui se multiplient en Russie ou alors en Ukraine, en Biélorussie, dans les sphères d'influence russe.
C'est vrai que c'est une pratique des télévisions d'État, de propagande chinoise, et que ça s'étend en Russie. Il y a un exemple qui est peut-être le plus emblématique, et ce journaliste qui s'appelle Vladimir Yessipenko en Crimée, qui a été arrêté par le FSB, les services de renseignement russes, qui a été torturé, qui a été soumis à des aveux publics à la télévision, des confessions forcées. Prétendument, c'était un agent ukrainien, en réalité le dossier... est extrêmement vide. On prétend à la fois qu'il était un espion et qu'il y avait une bombe dans sa voiture. Il est rare que les espions aient des bombes dans leur voiture. Mais passons sur les incohérences. Et il a été condamné la semaine dernière à 6 ans de prison. C'était le 17 février. Et c'est ce qui risque d'arriver aux journalistes ukrainiens si la Russie prend possession d'autres territoires.
Christophe Deloire, je rappelle que vous êtes délégué général de RSF. J'aimerais qu'on donne la parole à Julien Nocetti, qui est chercheur à l'IFRI, parce que Christophe Deloire a commencé à introduire le troisième point qui est décisif, c'est-à-dire la façon dont le Kremlin déploie une stratégie numérique à l'intérieur de ses frontières et à l'extérieur de ses frontières. Julien Nocetti, vous m'entendez ? Vous êtes avec nous. On peut peut-être commencer par V-Contact. V-Contact, c'est l'équivalent de Facebook en Russie. Et V-Contact est aussi rentré sous la houlette de Gazprom. Hein. Christophe Deloire parlait de Gazprom. Gazprom, je rappelle que c'est une grande entreprise publique, c'est un fleuron national de l'énergie, hein, donc autant dire le Kremlin en direct, qui contrôle déjà une cinquantaine de médias, dont 38 chaînes de télévision. Et bien maintenant, on avale Facebook. Et le Facebook russe, ce V-Contact, était déjà de toute façon complètement infiltré par les services secrets russes.
Oui, absolument, en fait, et ça, c'est pas nouveau. Et au fond, ça remonte à cette séquence électorale d'il y a 10 ans en Russie, hein, avec l'élection parlementaire de 2011 et présidentielle de 2012, qui a vu le retour de Poutine au Kremlin. Et c'est vraiment à ce moment-là que c'est cristallisé un vrai changement d'approche, en fait, hein, dans le contrôle des médias et des principaux canaux numériques en Russie, avec des contrôles par le biais du capital. Donc ce que vous expliquez ici à travers Gazprom en particulier. Et en fait, VKF Contacti était très symbolique parce que la société avait été cofondée par Pavel Durov, qui était une sorte de distrion finalement dans ce paysage numérique en Russie, un personnage très, très libertarien et surtout très critique vis-à-vis du Kremlin et de Poutine en particulier. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un tournant à cette époque-là qui a peut-être été sous-estimé dans notre analyse de ces changements médiatiques et numériques en Russie à cette époque. Il faut dire aussi qu'on se situait pile au moment des printemps arabes. Ouais. Donc notre regard était peut-être tourné vers d'autres régions. Mais c'est vraiment ce qui a cristallisé, là aussi j'insiste dessus, ce qu'on peut appeler le complexe obsidional des élites russes, c'est-à-dire vraiment un syndrome de la forteresse assiégée et qui voit... Qui perçoit tous ces réseaux numériques comme étant des menaces à circonscrire au plus vite et de façon radicale.
Mais alors, si ces réseaux numériques, Julien Nocetti, pour qu'on comprenne bien, si tous les réseaux numériques et si tous les réseaux sociaux en Russie sont perçus comme des menaces par les élites russes et par le pouvoir russe, est-ce qu'ils le sont réellement ? Est-ce que c'est un lieu de contre-pouvoir ? Est-ce que l'information peut circuler sur les réseaux sociaux ?
Et ça, c'est bien paradoxe. C'est bien paradoxe parce qu'en fait, depuis une petite dizaine d'années, puis ça s'est accéléré depuis 2-3 ans, vous avez une cascade, une avalanche de mesures restrictives, soit pour contrôler les contenus, je vais y revenir, ou soit également pour vraiment maîtriser les infrastructures, ouais. C'est-à-dire les routeurs, les serveurs, tous les câbles qui font circuler les données, donc les contenus. Donc ça, c'est une politique un peu tous azimuts qui peut rappeler ce qui est entrepris par la Chine depuis des années, à une échelle un peu différente parce que les autorités russes ont entrepris cela avec beaucoup de retard par rapport à leurs voisins chinois. Mm-hmm. Mais cela étant, vous avez effectivement une stratégie aujourd'hui très très construite qui part du haut et encore une fois qui
alors on voit bien ça,
ouais. L'exemple ukrainien le montre très bien, hein, qui montre des calculs géopolitiques assez froids en même temps qu'il y a un discours très très messianique et tout ça est déversé à longueur de journée sur les réseaux sociaux.
Ah ben voilà, précisément. Voilà, c'est ça que j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est-à-dire on comprend bien les mesures coercitives, hein, pour brider les réseaux sociaux. Expliquez-nous comment on s'en sert pour injecter de la propagande, pour injecter des messages qui, comme le disait très justement François Stomm tout à l'heure, arment les esprits et préparent la population russe.
Alors ça, ce contrôle, il va se faire de plusieurs manières. Alors très rapidement, ça va d'abord consister à contraindre tous les acteurs, donc VK en fait partie, qui vont faciliter la circulation de contenus qui ne vont pas plaire au Kremlin. Ça va aussi passer par une tentative de contrôler le référencement sur les moteurs, oui, de recherche. Donc, et en fait, en Russie, vous avez un moteur de recherche Yandex qui est encore dominant, qui totalise à peu près entre 2/3 et 3/4 des requêtes, mmh, sur un moteur de recherche en Russie, donc qui est très très influent. Donc ça va consister à faire tout un travail, voilà, sur le référencement avec la bonne hiérarchie entre guillemets à obtenir par rapport à des mots clés que vous allez saisir. Donc ça c'est un point très très important et qui s'est vraiment renforcé à la faveur du conflit en Ukraine, ce qu'on a très bien observé depuis la fin de l'année dernière, en fait, depuis décembre. Donc,
et un dernier mot, Julien, on parle là depuis tout à l'heure, depuis 9h40, sur la façon dont Vladimir Poutine prépare les Russes aux opérations militaires qu'il concocte. Comment est-ce qu'il prépare l'étranger, les populations étrangères à ces opérations militaires ?
Alors, ça va d'abord concerner l'Ukraine, où là, ce sera peut-être une dimension plus militaire qui sera mobilisée. Ouais. Et ici, l'information, elle fait partie du spectre des outils militaires mobilisés par la Russie, au même titre que l'outil cyber, que la guerre électronique, hein, pour brouiller là aussi des cibles adverses. Donc là, l'idée première sera de perturber, de démoraliser d'abord l'armée ukrainienne et ensuite la population ukrainienne pour abaisser le seuil de résistance de cette population, qui est concernée évidemment par la guerre. Et puis ensuite, vous avez le deuxième niveau, le deuxième cercle, les Occidentaux, les Européens et les Américains, là dans l'objectif qui n'est pas nouveau, hein, qui consiste à semer la confusion, le doute sur les objectifs réels de, ouais, la Russie et sur ce que la Russie entreprend finalement au quotidien.
Ouais. Merci beaucoup, Julien Nocetti, chercheur à l'IFRI, d'avoir conclu cette émission. Merci à Françoise Stomm, qui est historienne, de l'avoir ouverte, et merci à Christophe Deloire, le délégué général d'RSF, de nous avoir accompagnés ce matin. Merci à tous les trois de vous être libérés pour l'antenne de France Inter. C'est la fin de l'émission.